Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et comme l'été est là, nous avons décidé d'enfiler nos plus beaux maillots de bain et de vous emmener dans les profondeurs des océans. Suivez-nous pour découvrir la vie passionnante et tumultueuse de Jacques Mayol. Comme un dauphin dans l'eau, celui qui a inspiré le grand bleu à Luc Besson est le premier homme à être descendu à une profondeur de 100 mètres en apnée. Si le film porte à l'écran sa rivalité avec Enzo Maiorca, apnéiste italien, le scénario est bien loin de la réalité qui est pourtant tout aussi incroyable. Et pour vous la raconter, je me suis entourée d'une bande de joyeux petits poissons.
Ouais.
Olivier.
Je ne sais pas quel poisson je serai, bonsoir.
Bonsoir Olivier. Thomas.
Bonjour, comme un poisson dans l'eau.
Thibaut.
Moi je suis un dauphin, bonjour à tous.
Bien sûr que tu es un dauphin Thibaut. Et Younes.
Moi je suis un fougou.
Non, toi tu es une tortue centenaire.
Ah, c'est vrai. Bonsoir à tous.
Et un invité exceptionnel que vous connaissez peut-être, Greg. Non. Bonjour Greg.
Bonjour, la Raymonta, j'ai choisi d'être le Raymonta, voilà.
C'est parfait. Dire. Vous avez peut-être déjà entendu sa voix dans d'autres podcasts de Fréquence Moderne, et notamment... Ouais.
Culture 2000.
Bravo Greg.
Merci. J'ai eu un moment d'hésitation.
Et pour commencer, je vous propose d'écouter Jacques Mayol nous raconter ses plongées.
Avant une profondeur déterminée à atteindre, je vois déjà par avance, dans mon mental, tous les gestes que je dois accomplir. Puis il y a la seconde phase. Je me jette à l'eau et là c'est l'abandon complet. Je lâche prise, je laisse la pression s'exercer sur moi et je conserve, toujours en pensant à Clown, ce sourire intérieur qui me permet de me décontracter, d'être en union totale avec l'élément marin.
Et voilà, une pause détente est à l'assaut en ce début de PO. Alors Greg, c'est toi qui nous as soufflé l'idée de cet épisode. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi ?
Oui, parce que j'aime pas le sport. Du coup, j'aime bien la plongée en fait. Voilà. Non, plus sérieusement, moi j'ai fait de la plongée très jeune. À 8 ans, j'étais en plongée enfant jusqu'à mes 16 ans. Donc j'allais au club deux fois par semaine et on faisait de l'apnée et du bloc. Et on faisait des beaux voyages tous les ans avec la plongée. Et donc c'est un monde qui m'a fasciné, le monde marin. Alors c'est fascinant, c'est à la fois hors du temps, il le décrit aussi, t'es un peu en apesanteur, t'es dans un milieu hostile finalement, t'es dans l'eau, donc il y a des créatures bizarres, il y a un côté aventure, et puis c'est aussi un sport dangereux, donc il y a tout ça qui peuvent plaire à un ado. Moi c'était le cas, ça me plaisait beaucoup. Après je suis de la génération Grand Bleu aussi, hein, parce que je l'ai vu quand j'étais petit, en plus ça accompagnait toutes mes plongées, parce que dans le club on le regardait, donc il y a toutes les musiques qui se sont incrustées dans ma tête, et tout ça finalement en fait je le traîne avec moi, et c'est un peu des souvenirs d'enfance, c'est un peu la Madeleine quoi. Tu vois.
D'ailleurs tu veux peut-être enlever ton masque de plongée. C'est vrai. Juste pour l'émission.
En venant, je me suis dit, moi, j'ai oublié mon masque. À mon époque, justement, quand j'étais petit, c'était Pellizzari, Umberto Pellizzari, la star. Je le voyais dans les magazines et tout. Ouais. Ça faisait rêver. Après, moi, j'ai jamais fait trop d'apnée. Enfin, j'ai pas fait d'apnée vraiment. Mais voilà, c'est un monde qui me fascine. Il y a la performance physique, bien sûr, on va en parler. Il y a de la science. Il y a un aspect mystique aussi. Il y a un aspect interdit.
On va devoir éteindre les lumières.
Et non, mais c'est vrai que retenir sa respiration, c'est un peu jouer avec la mort. Et finalement, voilà, il y a plein de trucs. Ça pose plein de questions l'apnée et c'est pour ça que c'est fascinant quoi.
Eh ben on est très content d'en parler avec toi aujourd'hui et les autres deux questions. La première c'est combien de temps vous retenez votre respiration sous l'eau forcément, et deuxièmement ça vous inspire quoi l'apnée, la plongée, la mer, l'océan, tout ça. Vous avez 2 heures, Olivier.
Alors moi je tiens ma respiration hyper longtemps, ça doit être entre 2 et 4 secondes. donc ça c'est pas mal. La plongée j'en ai fait 2 fois, à chaque fois c'était des baptêmes à Marseille.
Mais c'était bien.
Et j'ai adoré, bon, une plongée notamment avec Thomas ici présent, je vais le laisser raconter. C'était ma foi très bien. J'étais avec le mec hyper cool, machin, qui dit regarde la tortue, wow, la tortue, machin.
Avec des tatouages de tortue.
Avec le tatouage de tortue, machin, t'es là, c'est la caricature en même temps, c'est le mec qui est là, qui est cool, qui te fait montrer que la vie est belle, que le grand bleu est magnifique, que la nature, il faut la préserver. Et pour juste rebondir sur ce que disait Greg, pour le coup, je n'en ai pas fait beaucoup, mais malgré tout, ça me passionne un peu aussi, cette espèce d'océan ultra profond avec. Moi, par exemple, il y a un truc, je suis passionné des baleines. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis passionné par les baleines. Dès qu'il y a un reportage sur les baleines, je le regarde.
Tu regardes.
Ah ouais,
très bien.
Vraiment, très, très. Et ensuite, par la profondeur, quoi. Le fait que c'est tout noir et que c'est. Enfin, c'est. Je trouve ça incroyable.
Oui, d'accord.
Voilà, voilà.
Et toi, Thomas, alors, cette plongée.
Alors, cette plongée, déjà, mon record, une minute, parce que
c'est pas mal.
J'essaie toujours de battre une minute, donc j'y suis arrivé, mais plus jeune, parce que depuis le temps a fait son effet, je ne peux plus. Après, en ce qui concerne l'apnée en général, nous on s'en sert pour le dès qu'on a le hoquet dans ma famille. Voilà, on retient sa respiration, c'est ce qui permet de ne plus avoir le hoquet. Et pour finir mon baptême de plongée, mais c'est un peu de la triche puisqu'on avait des bonbonnes d'oxygène. D'ailleurs, c'est pas commun de respirer avec. Mais Olivier a eu donc le mec super cool. Moi, j'ai eu l'inverse, le mec pas commode, qui ressemble à une commode, qui a le visage d'une commode et qui m'a rouspété dessus. Alors
c'était
que
la Raymanta,
c'est assez cher. Hein, voilà.
C'est archi bien.
Non, c'était un.
C'est le pas commode qui nous expliquait. Tu étais sur le bateau et il t'explique vraiment toutes les règles à suivre pour le début de la plongée.
Très loin.
Il y avait du vent de ouf, t'as toute la mer dans la gueule. Et tout ça, etc. On commence à taper un fou rire. Et lui, il est là, par contre, hey, vous m'écoutez là, les deux du fond?
Bah, ça m'étonne pas, hein, les gars, désolé.
Voilà, non, du coup, souvenir assez mitigé avec les profondeurs en général.
Et toi, Thibaut?
Alors, moi, j'étais a priori moins enjoué que vous tous. Ça me fait un peu peur, l'apnée. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la discipline vraiment sportive et les limites de l'être humain, aller toujours
c'est
plus
fou.
Loin. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire de Mayol. Je n'avais jamais réussi à voir le Grand Bleu en entier.
Et tu as réussi?
Ouais, là, du coup, évidemment. Et avec toutes les belles notes réalisées par Greg, je suis vraiment rentré.
Non, j'ai rien fait, moi.
C'est mes notes.
Je me disais que c'était trop bien. Je suis vraiment rentré dans cet univers-là, mais j'ai encore trop peur pour en faire moi-même.
Et ben moi, je vais vous raconter aussi, même si
vous
n'êtes
pas,
parce que
vas-y.
J'ai plein de choses à raconter. J'espère que vous avez un peu de temps. Moi, j'ai toujours adoré l'eau, la piscine, la mer. J'ai toujours adoré ça. Quand j'étais petite, j'essayais de faire de l'apnée dans la piscine. On allait avec mes parents de faire la longueur sous l'eau, etc. Et au bout d'un moment, j'y arrivais. Bon, c'était pas terrible. Hein. Je pense que c'était 35 mètres, donc c'est un peu nul. Mais j'étais hyper contente et vraiment, j'étais sur le bord de la piscine et je respirais de plus en plus doucement. Enfin, je me préparais vraiment bien. Et sinon, j'ai fait plusieurs fois de la plongée avec bouteille. Et je trouve qu'en fait, on en parlera d'ailleurs, il y a des liens entre l'apnée et yoga. Bon là, et plongée avec bouteille, c'est quelque chose en fait où tu es hyper concentré sur ta respiration puisque tu t'entends respirer. Puis en plus, ça fait un peu peur parce que tu es dans un endroit où tu n'es pas censé pouvoir respirer. Et ça te met dans un état un peu de méditatif hyper agréable. J'adore ça.
Et Jacques Mayol le dit dans l'extrait. C'est vrai que c'est touchant. Moi, je retrouve vachement ça. Après, juste pour finir, parce que plein de trucs qu'il y a à dire. Mais c'est vrai que c'est un sport avec un engagement total. Il y a aussi Patrick Heldinger qui fait de l'escalade en solo, qui disait ce truc-là. Il disait, en fait, moi, quand je fais un truc, j'y vais à fond et j'implique tout mon corps. Et bon, ça peut impliquer la mort aussi. Et puis, ce qui est fun aussi avec justement les plongeurs, c'est que c'est aussi des aventuriers, des gens qui voyagent beaucoup et ça fait toujours rêver en fait.
Ouais, ce qui est surtout fun, c'est que Greg a utilisé le mot fun.
Fun dive, mon gars.
Alors aujourd'hui, on va pas vous parler de plongée avec bouteille, on va vraiment parler d'apnée, on va parler de Jacques Mayol et donc dites-en moi un peu plus, il vient d'où Jacques?
Il est né le 1er avril de 1927, un peu comme Younes, sauf que lui, il est né à Shanghai, plutôt dans un milieu aisé, parce que je crois que son père était architecte.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Alors, c'est rigolo, parce qu'il est né le 1er avril, et le 1er avril, c'est le jour des poissons.
Et oui, c'est vrai, voilà. très juste.
Des blagues aussi, paradoxalement.
Oui, voilà. Bah, lui, il blague pas. Il fait ses vacances au Japon. Et puis, très vite, il se passionne très vite pour la mer, finalement.
Bah oui, mais un peu comme un enfant. J'aime bien au début, où il joue tout le temps dans l'eau avec son frère. Il adore ça. Il est complètement fasciné par ce qu'on appelle les amas, qui sont des femmes qui plongent en apnée pour aller récupérer dans les fonds marins des coquillages. C'est des pêcheuses, en fait, et elles sont lestées par leur gros panier en osier.
Je connaissais
et
pas.
Il est complètement fasciné.
Il y a un très beau reportage sur Arte sur
les amas.
Sur les amas. Et où elles le font jusqu'à très, très âgées. Et parfois même jusqu'à leur mort, en fait. Parfois, elles meurent dans les... Voilà, c'est aussi la vie qu'elles ont décidé de mener. Et c'est très beau. On ne mettra pas le lien, mais voilà.
En tout cas, il est complètement... mais si, on le mettra. Et il est également fasciné par les dauphins. Alors, il y a plusieurs histoires. On dit que le premier, il le voit dans une grotte. Le premier,
sur un bateau,
paquebot.
Ouais, je crois qu'il le voyait sur un bateau.
Il y a les deux histoires.
En mer rouge.
Alors, moi, j'ai entendu une histoire où il voit des bateaux en mer rouge. Il est en train de rentrer de Shanghai. Oui, des dauphins. En train de rentrer de Shanghai. Donc, il passe par là. Ouais. Enfin, un long, long trajet. Et il voit les dauphins. Et il dit, j'avais trop envie d'aller avec eux. Parce que je peux comprendre. Hein.
Ouais. C'est vrai.
Alors, moi, j'ai un gros problème. Hein. C'est pour ça que le Grand Bleu, Jacques Mayol, c'est que moi, je déteste les dauphins.
Ah ouais, ça va.
Il faut vraiment que je le dise tout de suite.
Je pense que c'est le cri du dauphin que t'aimes.
Je trouve que c'est des hypocrites.
Non.
Ah, je trouve que c'est des hypocrites. Je trouve que derrière leur côté un petit peu, je suis gentil. Je pense que le dauphin te met le poignard dans le dos.
Moi, je pense que tu as rencontré les mauvais dauphins.
Peut-être.
Tous les dauphins que je côtoie sont pour toi sympathiques.
Ils sont pas tous comme ça. Hein.
En tout cas,
il aime la mer. Jacques
aime la mer. Et à la fin des années 30, Thibaut, il va changer un peu de vie, il quitte Shanghai, où est-ce qu'il va ?
Il va s'installer à Marseille, bien sûr. Et là, il va commencer à plonger. Son élément, c'est l'eau, vous l'avez tous compris. Très vite, on va dire de lui qu'il a un troisième poumon, comme N'Golo Kanté, formé au Stade Malherbe de Caen.
J'ai pas la ref, j'aime pas le sport.
C'est du foot, carrément.
Donc, très vite, on voit qu'il a des prédispositions bien supérieures à tous ses petits collègues, avec tous ses petits copains. Il tient sous l'eau en apnée beaucoup plus longtemps que tout le monde. À la fin des années 40, il part en sac à dos faire le tour du monde.
Exactement. Là, c'est vraiment le gros, gros départ. Et en fait, il va le faire plusieurs fois dans sa vie.
Il ne va pas arrêter, en fait. Là, voyage.
Ouais. Et là, il abandonne tout quand même. Il a 20 ans quand il va partir et il ne verra pas ses parents pendant 18 ans. Oui. C'est un gros tour du monde, gros départ.
Je ne sais pas si c'est un peu l'époque où il y a des... C'est l'époque de Cousteau aussi. Enfin,
d'ailleurs, il le rencontre, Cousteau, le capitaine du Calypso, Albert Falco.
À Marseille.
Ouais.
Tout à fait.
Mais je me demande si c'est pas... Ouais, c'est peut-être... Moi, je le compare un peu au Steve McQueen de la plongée, c'est-à-dire qu'il est méga individualiste, il fait ce qu'il veut, il va kiffer, et bon, là, la première fois, il part 5 ans, je crois qu'il va surtout au Maroc, en Suède, au Canada, il fait des voyages, et après, il va se poser un petit peu plus calmement en rencontrant une femme. Hein.
Ça pose en
cette femme. Comment s'appelle-t-elle ? Et Tomate, qui est le spécialiste des mots.
Super, c'est toujours moi pour la prononciation.
Ouais, toujours, c'est toi le spécialiste.
Je le tente. Vikebe Boje Vadolst, qu'on appelle Vicky, ce qui est plus simple, qui est danoise, sauf qu'il la rencontre en Suède, et il va se marier avec elle. Ils vont avoir deux enfants, Doty et Jean-Jacques.
Ouais.
Ce qui est original.
Jean-Jacques, il l'appelle Pedro, Jacques, je crois. Mais c'est vrai.
Ils vont vivre en Floride, en fait, parce qu'elle est suédoise, elle est danoise. Et ils se rencontrent en Suède, mais en fait, ils ne vivent pas là-bas. Ils vont directement en Floride et c'est là qu'ils ont les enfants. Quoi.
Et ce qui est très impressionnant, c'est que ce qu'on explique, c'est que lui, vraiment, il n'a rien du tout, rien en sa possession, mais que tout le monde le décrit avec un caractère hyper charmant. Bon, il est assez séducteur et il va enchaîner les petits boulots. Et dès qu'il va rencontrer des gens, en fait, finalement, il va facilement se lier, créer des amitiés.
Il est séduisant.
Et voilà. Et donc, il va s'installer à Miami. Ça m'a fait marrer dans un documentaire. Sa fille dit qu'elle se rappelle qu'il était toujours en speedo.
Ouais.
Donc, ça m'a fait rigoler.
Voir le petit slip. Hein, ouais, le petit slip
de bain, en fait, il est en maillot de bain.
tu l'avais écrite, celle-là. Je sais que tu l'avais.
Je jette mes notes, c'est bon.
Et voilà,
mais on vous assure que c'est pas un sponsor de l'émission pour le speedo.
Non, et c'est rigolo parce qu'il a ce côté comme ça où il peut aller quelque part juste avec rien, en fait. Avec juste un petit sac à dos, avec des palmes et un masque. Mais là, quand il se pose en Floride, pour le coup, on a l'impression qu'il est en train de se calmer un petit peu. Ouais. Il a une femme, des enfants, et il a un métier qui est plutôt stable, c'est-à-dire qu'il va bosser au Seaquarium. Vous prenez l'aquarium, hein, ni plus ni moins. Et là, en fait, c'est le mec qui va dans les gros aquariums, là où il y a les requins et les dauphins, pour nettoyer, pour donner à manger,
à bouffer, tout ça.
Exactement, pour nettoyer, nourrir les animaux. Et déjà à cette époque-là, on voit que, enfin, il tient très longtemps sous l'eau de nouveau. Donc, il raconte que les animaux étaient un peu perturbés par cet être humain qui était un peu supérieur aux autres. Et il fait une nouvelle rencontre et je vais te demander le nom encore, Thomas, là c'est facile, franchement.
C'est facile, la femelle dauphin s'appelle Clown.
Exactement.
Et voilà, donc il se lie vraiment d'amitié avec ce petit dauphin. Je ne sais pas si on dit une dauphine, j'ai pas réussi.
Ah ouais, j'avoue.
Je ne suis pas sûr, donc je le tente quand même. La dauphine,
je crois qu'on peut le tenter.
On le tente, on le tente.
C'est peut-être un des seuls trucs qui est vrai dans le Grand Bleu. Il y a un moment, il y a un des dauphins qui va voir un dauphin qui s'appelle Clown. Tu vois,
moi j'aimerais revenir sur le travail qu'il fait quand même. Il est censé laver l'aquarium. On dit ça comme si c'est hyper. Oh, c'est trop cool.
La
taille de la vitre. Déjà chez nous, c'est long. Là, je pense que c'est normal de devenir ami avec le dauphin parce que la vie est tellement grande que tu n'as que ça à faire si tu veux. Tu
pas là, il est... faire autre chose. Là, c'est plus qu'ami, ben, c'est un véritable coup de foudre. Hein. Ils le disent d'ailleurs tous les deux quand t'interviews Clown. Clown le dit aussi. Voilà, il y a quand même. Je pense que c'est sa maîtresse presque, Clown.
Oui, je pense.
Il dit quand même à un moment donné qu'il se laisse pousser les cheveux pour elle.
C'est vrai.
Oui.
Elle avait demandé.
Oui, elle avait demandé.
Mais elle fera jamais la même chose. En
fait. Elle a essayé, mais ça lui allait pas très bien la perruque.
Non, et surtout en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il l'observe beaucoup, qu'il va en fait apprendre d'elle, et il va devenir de plus en plus persuadé qu'en fait l'homme peut faire comme les dauphins, parce qu'en fait les dauphins quand ils vont sous l'eau, qu'est-ce qu'ils font?
Caca dans l'eau? Non, c'est pas ça, pardon. Je suis désolé, pardon, c'est Olivier qui me l'a soufflé, je suis désolé.
Ouais, caca dans l'eau, non?
Eh ben, c'est pas grave.
Non, ils sont en apnée.
Ils sont exactement. En apnée, ils respirent pas.
Exactement, on croit que c'est pas comme les poissons qui ont des branchies, enfin, je sais pas trop comment ils font, mais
un dauphin, ça doit remonter à la surface.
Ouais, c'est un mammifère, tout simplement. Ouais. C'est un mammifère aquatique, c'est le plus.
Mais ils sont plus forts que nous, quand même, non? A priori.
Oui, parce que
c'est qui le plus fort? C'est l'aquarium ou c'est Clown?
Quand t'as des nageoires, t'es plus efficace sous l'eau, ça c'est vrai. Ouais.
Mais donc, il est persuadé qu'on peut faire comme eux. Ouais, du coup, il mourra l'année suivante. Merci pour l'émission. À la semaine prochaine.
Il est complètement donc fasciné. Il pense vraiment que l'homme peut être un dauphin finalement. Et pour la seconde fois dans sa vie, il va décider de tout abandonner. Qu'est-ce qu'il fait, Thibaut?
Ah bah il se barre. Et pourtant il a une fille qui a 9 ans. Ouais. Oh là 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 là. Il se barre à sa fille à 9 ans.
C'est Greg qui a fait cette blague?
Non, c'est moi.
C'est Greg, je confirme.
Non, je crois pas.
T'as pas honte de lui voler ses seules interventions?
Non, c'est moi qui l'ai fait, ça.
Ah bon, ça va. Pardon, excuse-moi.
Mes seules interventions, merci.
Il s'en va, je vous le dis, moi.
Oui, il s'en va.
Il s'en va, il a une fille de 9 ans. Il réussit bien à l'école, elle est en CM1, ça marche bien pour elle. S'en fout. Deuxième trimestre.
Steve McQueen, quoi.
Et là, il devient une sorte de playboy itinérant, pêche à la langouste à Cuba pour des riches américains, chercheur d'or en Californie, la vie rêvée de nous tous.
Ouais, il cherche des trésors. Selon les dires, il y a trois choses qui l'intéressent, c'est la mer, les femmes et l'aventure.
Oui,
moi, je trouve ça un petit peu dur.
Il squatte chez les copains. Ouais. C'est pas facile. Il squatte chez les copains pendant des mois. Il y a un type qui disait, c'est dans le reportage d'Arte, je sais plus, je le confonds, qui disait, moi il est venu. En gros, et c'est le mec qui squatte sur ton canapé qui dit, je suis là pour deux jours. Un mois après, il est encore là. Il a fait juste une fois des pattes. Il laisse l'évier dégueulasse.
Et encore, il les a même pas achetés.
Il payait pas beaucoup apparemment.
Faut qu'il soit vraiment très sympa quand même. Hein. Il doit être vraiment très sympa. Hein.
Il va même s'incruste un peu à Hollywood où il va être le chauffeur de l'actrice Zsa Gabor qui va aussi sortir avec Sean Connery ou Frank Sinatra.
Alors Zsa Gabor, j'ai pas noté, mais elle s'est quand même mariée 9 fois, hein, la dame. Elle a divorcé 7 fois et un de ses mariages a été annulé.
Voilà. Oh. Et surtout, anecdote, ça, je sais que Greg a passé beaucoup de temps à chercher des informations là-dessus. Plus tard, hein, là on est à la fin des années 50, en 77 quand même, ces années à Hollywood qui auront marqué Jacques Mayol, qu'est-ce qu'il va faire, Greg?
Ben, il va faire un film de charme sous-marin, un peu, probablement, je sais pas si c'est le premier ou pas. En tout cas, je me suis vraiment décarcassé, j'ai cherché les images, ça m'a coûté, hein, franchement. Et je l'ai vu.
Ah, génial!
Je l'ai vu, alors bon, c'est 77.
On mettra les images sur le...
Ah, bien sûr,
je suis pas sûr qu'on puisse.
On mettra les images sur les réseaux sociaux.
Attends, mais tu l'as vu alors?
Mais oui, je l'ai vu. Alors pour le coup, c'est pas de l'apnée. Mais enfin, pas tout le temps, disons.
C'est à l'air libre.
Non, mais en gros, ouais, non, mais je vous conseille de regarder.
Et est-ce qu'il y a des scènes animales avec des dauphins?
Il y a pas de scènes animales, mais justement, moi, je soupçonne quelque chose. Bah voilà, donc il a une vie de vagabond, il gagne sa thune en faisant des pornos, et puis il claque tout parce qu'il doit payer des trucs à Clown qui est en train de vider ma boule, quoi, tu vois, qui lui dit.
Mais et là, on rejoint Olivier, parce que Clown, elle est comme ces dauphins qu'Olivier n'aime pas.
Clown ne roule qu'en Porsche, ça, c'est ultra chiant.
Donc l'autre, il est obligé d'aller faire des pornos pour gagner de la thune pour Clown qui dépense toujours plus, voilà.
Et cet été, c'est où, Clown? Les vacances? L'océan Pacifique. Et pourtant, on est dans l'Atlantique.
En tout cas, au-delà de cette vie d'aventurier, depuis sa rencontre avec Clown, il s'est quand même pris de passion pour l'apnée. Et alors, au début des années 60, hein, la science, elle nous dit quoi, en fait, sur l'apnée?
Il dit c'est bien.
Il dit faites-en, mais pas trop, parce qu'au-delà de 50 mètres, vous mourrez. Vous ne pouvez pas résister à la pression. Et vous décédez dans d'atroces souffrances.
Mais il y a une technique, on met le doigt sur le nez et on pousse fort avec les oreilles comme dans l'avion.
Pour tout de suite, ça marche mieux.
Non, et là, vous gagnez 10 mètres de plus.
Et il y a un physiologiste français, effectivement, le docteur Cabarrou. Il prédit l'existence d'un mur infranchissable, alors que Jacques, on l'a dit, lui pense au contraire qu'on peut s'adapter comme les mammifères marins. Et l'histoire lui donnera d'ailleurs raison.
Mais c'est vrai que la science rentre en jeu. Finalement, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est comme quand les premières bagnoles vont aller à 100 km/h ouais. ou les avions à 1000. C'est toujours des trucs, tu vois. En plus, ouais. c'est le mur des 100 mètres. Après, si tu le mets en pied, tu vois, ça n'a plus vraiment de sens, mais c'est toujours des trucs assez symboliques. Bon, là, on te dit, si tu descends à plus de 50, tu vas claquer. Bon, en tout cas, il y a les scientifiques qui se mettent dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de Mayol pour savoir ce qui se passe. Et en même temps, Mayol, lui, veut aller plus loin. Et donc, bon, en fait, ça devient une collaboration.
Ouais, c'est assez passionnant, cette
Au aspect-là. Niveau des assurances, je sais pas comment ça se passe. Ça marche, c'est peut-être pas terrible.
Bah, c'est la MMA, après, mais je sais pas.
Et justement, on a un représentant MMA qui est là ce soir.
Oui, qui arrive. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc. Bon.
En tout cas, peut-être que c'est le moment de dire un peu plus en détail ce que c'est que l'apnée. Donc, c'est une forme de plongée sous-marine basée sur l'interruption volontaire de la ventilation. Donc, c'est différent de la plongée avec les bouteilles où on respire. Et peut-être historiquement, ça remonte un peu. On a des traces dans la préhistoire, le ramassage de coquillages.
Bah oui, voilà, c'était pour la pêche, la chasse, la pêche. Et donc, historiquement, c'est là depuis des millénaires.
Exactement. Voilà. Et donc, les champions d'apnée, y en a qui ont des prédispositions particulières. Hein. Par exemple, il y en a qui ont des métabolismes plus lents que d'autres, ce qui leur permet de rester plus longtemps sans respirer. Mais les records se battent toujours avec beaucoup de travail, ça, on le sait. Et je crois que Olivier avait envie d'aller un peu plus loin sur l'apnée et ses secrets. Et il va nous dire tout
J'avais
ça.
J'ai vraiment envie. Ouais.
Je vais toujours aller plus loin.
60 secondes chrono.
Ah non, mais c'est moi ou il est un peu pumpé ce générique depuis le mois dernier.
Non, c'est le même.
Ah ouais, d'accord, très bien.
C'est le même.
Ah, bah écoute, l'apnée, c'est là quand même, ça dépend de la capacité à économiser le dioxygène, hein, donc l'oxygène pour ceux qui savent
pour
pas ce
nuls.
Que c'est, contenu dans les poumons. Alors à noter que lors d'une apnée volontaire, ce n'est pas le manque d'oxygène qui suscite le besoin de respirer, mais le taux élevé de CO2, c'est lui qui transmet au cerveau le signal de respirer. Ok, c'est pas l'oxygène en fait. C'est pour l'exercice des apnéistes avant, pour expulser le plus de CO2 possible. C'est pour ça qu'ils font. Voilà.
Ouais, ils hyperventilent. C'est des techniques qui sont un peu dangereuses d'ailleurs.
Ouais, c'est un petit peu. Ouais, non, c'est un peu chaud.
Il y en a plein qui le font.
On voit d'ailleurs dans le Grand Bleu pour le coup Renaud ou Jean-Marc Barre le faire à chaque fois.
Ouais.
Donc, toute l'idée, c'est de s'auto-contrôler. Voilà. Et de nombreux facteurs influencent la capacité qu'a le corps à s'auto-contrôler. Il y a les facteurs externes, notamment la température de l'eau, notamment chaud, froid, etc. Ça va jouer vraiment un rôle. Et tout ce qui est facteur physiologique, relâchement mental, économie des muscles, concentration, technique respiratoire, souplesse du volume pulmonaire et le fameux... réflexe d'immersion.
Alors,
le réflexe d'immersion, dis donc, c'est quoi, Jamie? Je vais vous dire. C'est un réflexe partagé par l'ensemble des mammifères pour optimiser la respiration quand on est dans la flotte. Hein. Alors, tous les mammifères aquatiques, hein, la loutre, le dauphin, Aquaman, mais pas seulement. Alors, les pingouins aussi, je sais que tu voulais pas en parler, Sarah, mais les pingouins aussi. Et donc l'homme. Donc, c'est le réflexe qui se déclenche quand le visage est en immersion dans l'eau. Il faut que l'eau soit à moins de 21 degrés. Voilà, si c'est plus de 21 degrés, il n'y a pas ce réflexe d'immersion du tout. Ça marche grosso modo en 3 étapes. Le début du voyage, le début de l'apnée, arrive la bradycardie. Alors, c'est l'inverse de la...
Rien à voir avec Brad Pitt.
Rien à voir avec Brad Pitt. Rien à voir
avec Icardi.
Ni avec, ce n'est pas un milieu de terrain italien. C'est le rythme cardiaque qui diminue immédiatement de 10 à 25%. C'est le début de l'apnée. Et d'ailleurs, le début de l'apnée, j'ai appris qu'on appelait ça l'easy going, parce que c'est très facile. On est bien, on voit des jolies couleurs, comme Younes quand on lui donne ses cachets.
Moi, c'est pas vrai. Au bout de 10 secondes,
Moi, je remonte.
Bah, Thomas, je pense qu'avec le pacobode, je sais pas si c'est l'easy going aussi. Ensuite, on a la vasoconstriction périphérique. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Lors des plongées profondes avec une pression plus forte, les capillaires, qui sont des fins vaisseaux sanguins, donc contenus dans les extrémités, se ferment. Donc toutes les extrémités, à savoir petit à petit les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Alors le zizi, je ne sais pas, faudra demander. Se ferment
oui,
et laisse,
quand l'eau est froide.
Laisse la place à l'oxygène au cœur et au cerveau. Voilà, en fait, le corps cible ses priorités. Et enfin, dans des plongées encore plus profondes, on a ce qu'on appelle l'érection pulmonaire. Donc ça, c'est comme l'étape précédente, mais c'est juste plus intense. Hein. C'est les extrémités du corps, mais aussi de l'abdomen. Envoie le sang qui bifurque dans le thorax et ça permet d'éviter un œdème pulmonaire ou des organes écrasés. Et cette augmentation du volume sanguin qui afflue vers le thorax, ça s'appelle le blood shift. Et cela permet... ça s'appelle le blood shift, c'est tout. Voilà.
Donc, c'est assez dingue ce blood shift parce que c'est à 50 mètres et en fait, tu as du sang qui vient dans ton thorax pour éviter qu'il soit écrasé par la pression quand même. En fait. C'est quand même un truc... Enfin, on ne savait pas que ça existait quoi, avant qu'il le fasse.
Exactement. Et c'est au fil des plongées en, fait, en apnée et en profondeur qu'on va découvrir au fur et à mesure que ce phénomène existe. Donc, c'est assez fascinant. Et donc, on peut aller, même nous, l'homme, au-delà de 50 mètres. On ne le savait pas. On savait que ça existait chez les mammifères marins, mais maintenant, on sait que ça existe chez l'homme. Et d'ailleurs, la première fois que ce réflexe sera observé, ce sera en 67. Par des médecins américains sur deux cobayes, dont l'un d'eux est
Jacques Mayol.
Ah, bravo, vous suivez, je suis très très contente. Jacques Mayol qui dira « C'est une sensation merveilleuse quand à 60 mètres, tu sens deux mains gigantesques qui t'étreignent, mais sans te faire mal, gentiment, et te font affluer le sang vers le poumon pour aller encore plus bas. »
Et c'est mystique, hein.
C'est assez mystique. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter nous en dire un peu plus sur ce réflexe d'immersion.
L'homme est à la recherche de ses origines et depuis une vingtaine d'années, il me semble que j'ai découvert que l'homme est beaucoup plus aquatique qu'on ne le pensait. Et je pense que mes expériences, mes expérimentations appliquées ont tendance à montrer que l'homme a en lui des réflexes archaïques, n'est-ce pas, qui lui permettraient de retrouver, de remonter au plus profond de son bagage génétique et de devenir en partie amphibie. Je ne prétends pas que l'homme redeviendra ou deviendra dauphin, mais je pense que l'homme est beaucoup plus aquatique qu'il ne le pensait, l'homme naturel. Je parle du plongeur qui plonge sans bouteille, donc qui plonge en apnée. Et c'est ce que je recherche. Je recherche le réflexe d'immersion archaïque chez l'homme. Sur le plan de l'immersion, les scientifiques, spécialement japonais, américains, italiens et maintenant français aussi, ont constaté qu'effectivement mes expériences, mes plongées profondes, avaient largement contribué à découvrir que l'homme était en partie amphibien, amphibie si vous voulez.
Lui, il attend que ça. Hein. Et Clown, elle lui a demandé de faire des opérations. Il commence à se mettre sa première nageoire pour lui faire plaisir.
Et tu ramènes du pognon. Ouais.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que à la
Clown
fois.
Clown est vénal. Et ça, on le savait depuis le début de l'émission.
Comme toutes les femmes. Ah non, pardon. J'aime bien être la seule femme à dire ça.
Ouais, ben.
Moi, je trouve limite, hein, Sarah. Ce sera peut-être coupé, on verra.
On verra, ce sera peut-être coupé au montage, mais c'est moi qui fais le montage. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va le voir, Jacques Mayol, il va avoir un très grand engagement aussi quand militant. Même pour l'environnement, militant. Il a une tendresse absolue pour les animaux. Il y a des images... Tu l'aimes bien, l'image de lui avec la petite loutre, où il y a une petite loutre qui lui parle.
Ça, c'est cool.
Trop
mignon.
Il fait un check à la loutre. Mais d'ailleurs, Clown était très, très jaloux.
Très jaloux.
On peut comprendre.
Et en même temps, il a un
côté... Qui n'a pas été jaloux d'une loutre.
Non, il a un côté un peu narcissique quand même, je trouve, quand il parle, tu sais, mes expériences, ce que j'ai fait,
c'est un showman, tout l'inverse de Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu en fait. Et c'est un très bon communicant jusqu'à la fin de sa vie. Bon, alors il sera un peu plus solitaire à la fin, mais moi j'ai vu des conférences à la fin de sa vie où il raconte ses relations avec les dauphins, un truc, enfin avec Clown et tout. Non mais je plaisante pas,
Clown.
C'est assez fascinant parce que je trouve qu'il en parle très bien finalement. Et pour revenir au physique, je trouve que c'est... Non mais pas de Clown, hein, évidemment. Non mais c'est quand même assez dingue parce qu'on l'a pas dit, mais lui il va aller faire du yoga, il va s'intéresser au zen pour ne plus penser, pour être meilleur. Et après ce truc de blood shift, finalement en fait c'est un truc qui change complètement à la fois son corps physiquement et son corps mentalement. Donc c'est un sport qui va complètement le transformer. Et c'est ce qui arrivera avec avec tous les plongeurs aussi quoi.
C'est beau ce que tu dis.
Ouais, merci. Ouais.
C'est vrai que c'est pas mal.
Revenons.
Il a critiqué le physique de Clown quand même.
Non, ne critique pas.
Clown est très belle.
Ouais. Revenons dans les années 60. Donc, à l'époque, le meilleur pour l'apnée en profondeur, ce n'est pas Jacques Mayol, c'est un certain Enzo Mallorca. Thomas, c'est qui ce monsieur ?
Eh ben, c'est un Sicilien qui s'appelle donc Enzo Maiorca qui va donner raison à Mayol puisqu'il va prouver qu'on peut dépasser la plongée au-delà de 50 mètres. Ce que je n'ai pas réussi avec Olivier avec la bouteille, mais parce que nous on était à 5 mètres, il me semble. Donc lui, on l'appelle le seigneur des abysses. Il est né à Syracuse en 1931 dans un quartier assez populaire. Ouais. Et en 43, après le débarquement américain, il récupère un masque à gaz et il va essayer la plongée avec en le rafistolant. Alors, à ne pas faire chez soi. D'accord, vraiment.
C'est la petite histoire qu'on aimait bien. Voilà. Ça.
C'est la petite histoire.
Ça, c'est pareil. Bon, je demande à voir le rafistolage parce que je suis pas très sûr que ça ait vraiment marché.
C'est très bien que les Américains, ils ont jamais débarqué en Europe. Pas à nous que. Hein.
Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il commence à avoir un vrai amour pour les profondeurs.
Ce sera coupé aussi, peut-être. C'est pas vrai. Thibaut, je peux jamais le couper parce qu'il dit ses conneries en parlant sur quelqu'un d'autre pour qu'on soit obligé de les garder. Bravo, pardon Thomas, tu peux continuer.
Faut savoir que Enzo, il plonge pour aller récupérer les poissons tirés par d'autres. Donc ça s'appelle du vol. Et en 1956, il y a un article sur un record dans les profondeurs à 41 mètres quand même. Donc c'est faut savoir que on était pas mal proche à 9 mètres des 50 mètres qui sont censés être
la mort
fatale, fatale si
pied,
on est plusieurs
mais
voilà.
Et puis
en pied 6.
Non, et puis,
à peu près.
Et puis surtout, en fait, il lit cet article où il y a un record à 41 mètres, et lui, en fait, sans trop forcer, il descend déjà à 40 mètres. Et donc, il se dit, il y a un petit coup à jouer là. Et donc, Thibaut, il va commencer à battre quelques records.
Il y a une petite médaille à aller chercher. Hein.
Et toi, tu aimes les médailles?
Ouais, j'adore ça.
Tu en as eu beaucoup?
Aucune.
En escrime, même
si,
pas.
Si, en escrime, plein. Bah, en voilà, appuyé, zéro.
Bravo. Ah, voilà.
Non, il battra plus d'une dizaine de records dans sa vie, 13 records, et ça va aller vite, puisqu'on parle de plus de 40 mètres, et très vite, il va franchir même les 50 mètres. Donc, ça passe au début des années 60, donc 41-45 mètres. Le premier homme à franchir les fameux 50 mètres dont on parlait en 61, et puis 54 mètres au milieu des années 60. Donc on a franchi cette fameuse limite.
Exactement. Et de son côté, Jacques Mayol, lui aussi, il s'entraîne pour battre des records.
Je trouvais qu'il y avait, comment dire, dans leur rivalité, ce qui est assez... moi, l'impression que j'avais, c'était que Enzo Maiorca était vraiment dans une démarche d'aller chercher des records pour le côté
plus sportif.
Voilà, plus sportif, tandis que Mayol... Moi, je le vois. Après, j'ai pas envie de spoiler la fin parce que, en disant que Mayol a envie de se prendre pour un dauphin et de ne plus être un homme. Mais la sensation que j'ai eue sur ce monsieur, c'est qu'il est pas forcément que dans la compétition. Lui, il est pas dans la compétition sportive. Il a l'air d'être quand même un petit peu plus sur la recherche jusqu'où l'homme en général peut aller, jusqu'où je peux aller. Donc, il y a un côté très.
Un côté plus scientifique, mais est-ce qu'on n'est pas aussi vachement induit en erreur à cause du Grand Bleu où on nous les représente beaucoup comme ça?
Non, pas trop. Je trouve que c'est assez juste parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'il s'amuse et il a vraiment envie de dépasser les limites parce qu'il a envie d'aller plus loin. Et là, je pense qu'à cette époque-là, il est vraiment dans la compète avec Enzo Maiorca. Plus tard, à la fin de sa vie, il fera plus du tout ça. Il dira, moi, en fait, bon, la compète, ça sert plus à rien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est autre chose. Et donc, il va descendre dans le Grand Bleu avec, au-delà des 60 mètres avec des dauphins à la fin de sa vie, tu vois, dans les 70 ans, les 70 mètres, alors qu'à cette époque-là, il y a Pellizzari qui va à 150 mètres. Bon, oui. Tu vois, il va plus chercher les records. Il trouve que. Donc, je suis assez d'accord avec ce côté philosophique de Mayol. Maiorca, je sais pas s'il est totalement juste sportif parce qu'en vrai, je pense que ça te prend trop pour.
Ça, j'avoue que c'est ma vision du méchant du Grand Bleu pour le coup.
Ouais, voilà, non,
lui, c'est le sportif, c'est le méchant.
Tu l'es jamais totalement dans ce genre de sport. C'est des sports un peu à part. T'es jamais sur le 100% sportif, je pense. C'est pas du football. Quoi, tu vois. Mais je suis assez d'accord sur la distinction entre les deux quand même.
Ouais. C'est possible. Après, je pense que Maiorca, forcément, il a dû s'inspirer de Mayol et qu'il a dû le voir faire du yoga. Il a fait voilà, attends, s'il va aussi loin en faisant du yoga, peut-être qu'il faut que je m'y mette. Tu vois, c'est vraiment sportif.
Mayol est très impressionné. Il monte sur la tête en position du lotus. Donc, avec les jambes un peu en tailleur pendant 20 à 30 minutes. Il apprend plein de techniques respiratoires en Inde.
Ouais, bien sûr. Il est... Et c'est marrant parce que autant c'est moi ce qui m'a marqué, c'est autant c'est un gros... J'allais dire que t'as fait tard.
Tu l'as dit. Techniquement, tu l'as dit.
Dans la vie, et autant il a une espèce de sérieux dans le documentaire encore sur Arte, il y a Bob Croft, un de ses concurrents, qui avait une plongée en apnée le lendemain, et Mayol le voit et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là la veille, pourquoi tu bois, pourquoi tu manges, demain t'as une plongée. C'est-à-dire que il y a aussi ce paradoxe là du personnage de Mayol.
Ouais, je pense qu'il a dû faire la teuf quand même.
Et donc les deux hommes vont se rencontrer en 66 aux Bahamas. Et là, Mayol va battre son record, le record de Maiorca, en descendant à 60 mètres. Il a déjà 39 ans à l'époque. Enfin, c'est fou, c'est pas vrai. Du tout un tout jeune homme. Ouais. Et voilà, et ils deviennent à la fois amis et adversaires. Et ils vont le dire, hein, qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Et Enzo Majorca dira, on n'était pas souvent d'accord. C'est mieux d'avoir un adversaire avec qui tu n'es pas en phase. Chacun défend ses idées, le ton monte, mais c'est exaltant. Mmh. Et puis, leurs noms vont être liés dans la mémoire collective grâce au Grand Bleu, même si on reviendra dessus. Enzo Majorca s'appelle Enzo Molinari dans le Grand Bleu.
Mais c'est vrai qu'ils, quand ils commencent leur compète, ils claquent tous les deux leurs records. Donc, c'est, ouais. Évidemment, ils se stimulent. Mais c'est vrai qu'aussi, ils repoussent les limites humaines. Et en fait, personne ne sait jusqu'à où on peut aller. Donc, on avait parlé de cette limite aux 50 mètres où tout le monde flippe.
Ils sont bien plantés quand même, les scientifiques.
Ouais,
du coup,
là, pour le coup.
On
ouais.
est sur du 2x3.
Et finalement, c'est un sport dont on parle. Tu vois, c'est pas un sport qui est très, très populaire. Mais pourtant, il y a quand même une communauté scientifique. Ça doit coûter un pognon de fou parce qu'il y a toujours des gars, des plongeurs, des machins. Donc c'est quand même, c'est quand même scientifiquement, ça avance aussi beaucoup avec eux, quoi. Donc c'est ça qui est.
Et l'âge dont tu parles, les 39 ans sur le record, en fait, pour bien expliquer aux gens, on n'est pas dans un sport où on est sur de l'explosivité où la performance maximale est atteinte à 22, 25, 26 ans parce qu'ensuite on va décliner. En fait, là, on est dans une telle maîtrise de soi.
Un sport pour Younes, en fait.
Non, mais c'est comme un marathonien qui peut claquer un record à 40 ans. De même là, on est sur des disciplines où en fait, c'est pas du tout un désavantage d'avoir 35, 40, 45 ans même plus.
Exact. Exactement. Et d'ailleurs, en 68, à Fort Lauderdale, Mayol vise un nouveau record, c'est les 70 mètres. Majorca va invoquer Neptune pour qu'il le protège.
Sympa,
c'est plutôt sympa.
C'est cool.
C'est très cool. Tout ne va pas se passer exactement comme prévu.
Il avait croisé les doigts. Hein.
Je vous propose d'écouter Mayol nous raconter cette plongée. L'extrait est un peu long, mais je le trouve hyper intéressant.
Oui, c'est le moment de vérité, le moment tant attendu, le moment le plus difficile, les quelques secondes qui précèdent la plongée. Vous voyez, la vitesse prodigieuse à laquelle je descends, entraîné par un poids de 27 kilos, je dépasse la première équipe de caméramen, je m'engouffre vers l'abysse bleue à une vitesse prodigieuse jusqu'au mur du fond. Le mur du fond, pour moi, c'est environ au 50 mètres. Après avoir passé 45 secondes, j'arrive vers le mur du fond, je dépasse, je fais 60, 62, 63, 64 et j'arrive au bout du câble. Le câble était de 70 mètres exactement, mais nous avions rajouté une autre petite corde de 5 mètres environ au cas où je me sentirais bien et sentirais de pouvoir pousser à fond. Je descends, je place une pince le long du câble métallique, voyez-vous, je fais demi-tour et sous l'effet formidable de cette pression qui est à cette profondeur de 8 kg par centimètre carré, j'arrive à peine à remonter, mais fidèle à mon entraînement de remonter d'une façon très détendue, très relaxe, je remonte. Au bout d'une minute 45, je suis obligé d'accélérer car je sais qu'il me reste environ 45 mètres à remonter et là vous allez remarquer un changement de style complet. Je remonte les mains le long du câble me propulsant au moyen des jambes et je brûle beaucoup trop d'oxygène. J'accélère beaucoup trop contrairement à mon entraînement habituel de remonter en grande détente. Vous remarquerez que les mouvements des jambes sont de plus en plus manque de coordination complète. Toutefois je suis parfaitement conscient, j'expire du CO2, du gaz carbonique par le nez. Je regarde la surface, je m'aperçois qu'il me reste environ une dizaine de mètres. Je m'approche du rendez-vous syncopal des 7 mètres dont parlait Charlie, mais je me sens parfaitement conscient. J'arrive à la surface tout à fait relax, mais absolument épuisé. Et là, j'ai quelques secondes qui auraient pu être prises pour des moments d'inconscience, mais qui ne l'étaient pas. Je nage de moi-même, comme vous le remarquez, vers mon chef d'équipe qui me tend la main. J'ai réussi ma plongée. 2 minutes 35 secondes sous l'eau, sans respirer, profondeur atteinte, 70 mètres 40. Johnny Weissmuller, l'ex-Tarzan, me reçoit à bord de son yacht, vraiment comme un fils, et c'est le moment vraiment de la détente. Le film a été excessivement raccourci pour la télévision, mais Weissmuller me félicite et là m'offre le traditionnel coup de verre.
Je trouve qu'il y a deux choses intéressantes dans cet extrait. C'est un, le temps, en fait, c'est très rapide, 2 minutes 35 comparé, on en parlera tout à l'heure, au record d'apnée statique qui sont au-delà de 10 minutes. Et de nouveau, ce truc où en fait, on a l'impression, c'est vrai, sur les images, on vous les mettra bien sûr, qu'il a un peu perdu connaissance et lui il dit non, j'ai toujours été très clair, très focus. Enfin voilà, tu sens qu'il a à cœur d'expliquer tout ça, mais je trouve que cet extrait est assez passionnant.
Ce que j'aime bien, c'est. Bah, après, t'as coupé la fin, mais il raconte qu'on lui paye un verre de whisky en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que le mec vient de descendre à 70 mètres, il est pseudo-inconscient. Je pense qu'en vrai, il était inconscient, il essaie juste de garder son record.
Mais il le dit bien.
Ouais, mais il le fait trop bien. Ouais.
Et après, il s'envoie un whisky. Bah non, je peux pas du tout faire d'inconscience. La preuve, je me suis envoyé un gros whisky après, selon la tradition, tu vois. C'est quand même bizarre.
Et quand... déjà, où était Clown? Ça, je pose une question quand même. Elle était pas là
derrière.
Clown, peut-être qu'elle faisait des infidélités avec Johnny Westmiller.
Oui, pendant que lui était au rendez-vous syncopal, elle était ailleurs.
Non, mais c'est peut-être le moment de dire quand même, attention, ne faites pas de l'apnée n'importe comment, c'est dangereux. Oui. Il y a un certain nombre de risques qui sont très divers. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns?
Alors, au-delà de, au-delà de 100 mètres, faites-le avec vos parents. C'est quand même ce qu'on voudrait dire.
Non, mais...
Il y a évidemment des gros risques d'hallucination, d'ivresse des profondeurs.
Ça, c'est marrant.
Plus ça va, plus tu descends, plus ça a l'air un peu facile et tout d'un coup, tu commences à avoir des hallucinations et en fait, qui ne sont pas bonnes du tout parce que c'est là où tu peux aussi perdre connaissance.
Exactement. Ouais. Tu as le barotraumatisme qui est une variation trop rapide de la pression extérieure qui peut affecter notamment ton oreille interne, de l'hyperthermie. Tu peux faire aussi des syncopes. En fait, les syncopes, c'est quoi? C'est le cerveau qui se met en veille car il manque d'oxygène. En fait, c'est pour se protéger, sauf que sous l'eau, sur Terre, ça peut marcher. Sous l'eau, ça, en général, c'est pas terrible. Et puis, il y a aussi des accidents techniques parfois dramatiques. Est-ce que, Olivier, tu peux nous dire un mot, peut-être, là-dessus?
On a Loïc Leferme, qui est un apnéiste, qui est mort à 36 ans en entraînement. Alors, je crois que c'est assez horrible. Il meurt par noyade. Lors de la remontée, le système se bloque et en fait, le contrepoids qui doit le faire remonter s'en mêle avec le câble. Il reste bloqué. En fait, à 85 mètres, il réussit à se dégager, il tente de remonter, mais il fait une syncope à 30 mètres. Ouais.
Il y a Audrey Mestre aussi qui est une Française. En fait, c'est les deux Français qui ont aujourd'hui encore le record de No Limit. No Limit, c'est ce qu'on voit avec la gueuse qui te descend et le parachute pour remonter. En fait, comme là, t'es dépendant du matériel, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui. Et ben, ça peut créer des accidents. Audrey Mestre, son parachute, c'est pas relevé, c'est pas rempli, du coup elle est pas remontée
mais elle est morte aussi.
Oh, c'est horrible. Et du coup alors pour le coup, comme je te disais, c'est eux qui ont les deux records de France actuels à 170 et 130 mètres, mais en fait on en fait plus trop aujourd'hui d'une limite. On veut plus trop faire d'homologation parce que c'est trop dangereux. On fait d'autres types de plongées maintenant.
Et on a aussi Guillaume Néry, l'histoire est un peu plus drôle. Les mecs, ils ont
parce juste fixé
une distance. Merde, on s'est trompé de 10 mètres. On devait fixer 129, on t'a mis 139. Donc c'est bien pour te pousser plus loin. Mais
exactement.
Terrible.
Et c'est hyper intéressant. On vous postera le lien vers un podcast où il raconte un peu sa vie, son histoire. Exactement.
Et lui est toujours vivant.
Oui. Et lui, il raconte.
Mais lui, il a arrêté après.
Il a arrêté en tout cas les records. Mais les mecs, il y a un bout de scotch qui s'était décollé. Et donc, il n'y avait pas 4 bouts de scotch, mais que 3. Ils sont dit, c'est bon, c'est 129 mètres. Et lui dit que quand il plonge, il sent qu'il y a un truc un peu chelou qui va pas. Il connaît exactement son timing et en fait, il plonge 10 mètres trop bas.
Ils sont en telle maîtrise que 10 mètres, c'est énorme pour eux sur 20 mètres. Je pense que
10 mètres, d'habitude, quand ils battent les records, en plus, c'est à 1 mètre ou 2 mètres. Là il se fait lui-même 10 mètres de plus.
Il fait quand même une syncope et un œdème pulmonaire en remontant. C'est pas très cool, mais aujourd'hui, je crois qu'il va bien, tant mieux. Et au début des années 70, retour à notre histoire.
Les records continuent à être battus. On vous avait parlé de 65, 70 mètres. Là, on est à la frontière des 80 mètres en 1972.
C'est dingue.
C'est meilleur. Mallorca qui le bat, celui-là.
Ouais, celui-là, c'est Mallorca, tu as raison. Ensuite, en 1974, on a Mallorca qui tentera les 90 mètres sous l'œil des caméras de la RAI.
Ça me fait marrer.
La descente commence, elle est rapide. Quand on dit rapide, c'est à peu près 2 mètres par seconde. Mais à 20 mètres, il va y avoir une collision avec, non pas un clown, ni un autre dauphin, mais un journaliste. C'est un peu embêtant. Et là, évidemment, il doit remonter en catastrophe et ça se passe mal et le record n'est pas battu.
En
vrai, clown attendait avec une batte de baseball.
Mais elle était à 85 mètres.
Et de son côté, Jacques Mayol continue aussi à plonger, mais surtout, il va être victime d'un drame. Thomas, c'est toi qui vas nous parler de ce drame.
C'est de tomber amoureux dans un premier temps. En plus, c'est pas une histoire très rigolote. Il tombe amoureux de Gerda Kovel, qui est une Allemande qui a 10 ans de moins que lui.
Mais c'est affreux ce que tu nous racontes. Voilà.
Donc, moi, au début, j'avais lu une Allemande de 10 ans.
Voilà.
Et de moins que lui.
Non, en plus, c'est l'amour fou, c'est la symbiose totale. Ils sont prêts à fonder une nouvelle famille. Et le 26 janvier 75, elle se fait poignarder par un jeune drogué dans une supérette en Floride et elle meurt dans les bras de Jacques Mayol. Donc on dit qu'il ne se remettra jamais de cette mort et que
c'est rude, hein.
Oui, bon, alors je sais pas, j'ai essayé de faire le jeu, mais très rapidement dans ma tête, de d'imaginer que ça m'arrive. Oui.
C'est
très vite arrêté.
C'est un drôle de jeu, ouais, que voilà, tu mets là.
Non, mais enfin, voilà, c'est juste pour dire que ouais, je pense qu'il n'y a pas. C'est, la mort, c'est jamais cool, mais encore moins.
Il n'y a pas pire que
celle-là. Et lui, ça va peut-être contribuer au fait qu'il va se détacher un peu des hommes. Il aura cette phrase qui, que je trouve terrible, je ne savais pas où la placer, donc je vais la placer là.
Qui dit 203.
Il vaudrait mieux pour la nature que les hommes n'existent pas.
Oui, il le dit souvent, ça.
Et donc, je vous propose, sur cette note un peu triste, de reprendre nos émotions avec notre pause musicale. À tout de suite.
I'm looking for something that I'll never reach. I see eternity.
Et on a écouté My Lady Blue d'Eric Serra, la bande originale du Grand Bleu, bien sûr. Du côté de Jacques Mayol, malgré le drame personnel, il va continuer l'apnée avec un nouveau défi. C'est quoi ce nouveau défi ?
Les 100 mètres. Les 100 mètres.
Les 328 pieds. Ça fait 300, j'ai calculé.
C'est tout de suite moins vendeur, mais ouais, c'est la vérité.
Moins symbolique.
Alors que bienvenue dans le final de 328 pieds.
Mais c'est vrai que c'est un truc très européen finalement, tu vois, pour c'est... calculer les 100 mètres.
Et non, mais donc c'est franchir cette fameuse barre des 100 mètres. Donc on n'est plus à la limite physiologique des 50. On l'a doublé. Greg expliquait tout à l'heure que ce qui était marrant dans l'apnée, c'est qu'au final, on était sur un subtil mélange ou un travail de collaboration entre des médecins, des chercheurs et l'homme et le sportif. Ben là, on est là-dedans, puisque lui, il a une équipe de chercheurs, de médecins, de techniciens qui l'aident à se préparer à un programme qui durera sur 5 ans.
Ouais, et c'est vraiment, il va avoir plein, enfin, il a même une machine sous-marine à rayon X, enfin, c'est trop marrant. Un programme, il va s'entraîner en hauteur, en haute altitude pour augmenter son nombre de globules rouges. Ouais. Il refait beaucoup de yoga, il fait beaucoup de pranayama, qui est la science du souffle. Tu aimes ça?
Oui, j'ai noté piranha sur mes notes. Donc,
le truc des globules, pour le coup, ça c'est assez classique de pas mal de sportifs, aussi bien footballeurs qu'un cycliste. Ils font souvent ça.
Oui, ils font du vélo le dimanche avec Loon. Enfin, il est tout le temps en train de s'entraîner. Quoi.
Mais c'est vrai qu'il faut s'imaginer aussi, parce que là on parle de 100 mètres. 100 mètres, c'est vraiment quand même très, très, très profond. C'est pas donné à tout le monde. Déjà, si nous en apnée, tu vas à 10 mètres, t'es déjà content.
Ouais, j'y vais pas moi.
Il faut savoir aussi que déjà, quand t'es à 20, 30 mètres, dans la mer, t'as déjà beaucoup moins de végétation, vu que le soleil traverse moins, il y a moins de vie. Et plus tu t'avances, plus il fait froid, plus tu te sens seul. Et j'imagine, moi je peux pas imaginer ce qui a commencé à 100 mètres. Bah. Mais je pense que t'es vraiment dans l'espace à 100 mètres. Quoi.
Non, mais t'as vu le film Abyss, c'est ça qui est en dessous.
Je l'ai pas revu malheureusement.
Il faut le revoir et tu te rends compte de ce qu'il y a en dessous.
C'est un porno ou pas? Parce que Greg,
il y a des bisous dedans un petit peu, mais.
Des bisous. C'est passionnant, pardon, oui, je rebondis. C'est absolument pas passionnante pour
on
le coup.
Vas-y. Éloigné de la frontière des 100 mètres.
Oui. En tout cas, en 1976, il va atteindre les 100 mètres sous l'œil des caméras et des médias. Et je vous propose d'écouter un reportage de TF1 à ce sujet.
Mais à côté de cette expérience scientifique, il y en a une autre, et d'une autre nature tout de même, que je voudrais vous présenter maintenant. C'est la plongée en apnée, c'est-à-dire sans le secours d'aucun appareil respiratoire. Et c'est un chercheur français, Jacques Mayol, qui vient de battre le record du monde à l'île d'Elbe. Il a plongé en apnée à moins 100 mètres. Regardez.
Jacques Mayol, 49 ans. Chinois et japonais l'appellent le dauphin français. La raison ? Regardez bien, il va battre le record du monde de plongée en apnée, c'est-à-dire sans l'aide d'appareil respiratoire. Profondeur, 100 mètres. Jacques Mayol descend le long d'un câble à l'aide d'une gueuse de 30 kilos qui l'attire vers le fond. Les 100 mètres atteints, Jacques Mayol remonte sans observer de décompression. C'est l'avantage de l'apnée. Durée de la plongée, 3 minutes, 40 secondes.
Et oui, ça, je trouve ça intéressant. C'est que nous, on est vachement habitués à se dire si on plonge très profond, parce que c'est la plongée avec bouteille, il faut faire des paliers en remontant. Ils remontent directement, alors selon les types d'apnée, soit à la force des palmes et en s'accrochant un peu au câble, soit avec le ballon qui se regonfle et qui les retire vers le haut.
Mais tu peux pas faire de décompression vu que tu ne respires pas, en fait, du coup.
Accident.
C'est un accident que tu n'as pas. Bon, tu peux en avoir d'autres beaucoup plus graves.
Deux, trois autres. Ouais.
Et donc pendant ces plongées, il y a aussi plein de recherches qui se jouent. Oui. On mesure plein de trucs chez Jacques. Qu'est-ce qu'on mesure, Olivier?
On mesure ses pulsations par minute. Alors pour le Jaco, c'est 28 pulsations par minute contre 90 hors de l'eau. On analyse le fameux blood shift, avec ce changement dans la circulation sanguine, son nombre de plaquettes, ses globules rouges, et sont d'ailleurs étonnamment élevés. Et tout ça, on essaie de toujours le faire quand Clown est toujours autour de lui, donc on essaie de pousser un peu.
Oui, parce que ça, mais voilà. Elle prend pas mal de place. En tout cas, cas pour Mayol, le futur de l'homme, c'est d'être un homme amphibien. Et donc, après ce nouveau record, globalement, ça va pas très fort. Hein. C'est comment les années 80 chez Jacques Mayol, Thibault ?
C'est pas top. Il est en pleine déprime, voire même en dépression. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est en dépression ? On part au Japon ?
Moi, j'ai pas fait ça la dernière fois.
Mais... t'aurais dû.
J'ai pas pensé. Tiens.
Le fameux monastère bouddhiste japonais, ouais. Il dit qu'il vaudrait mieux pour la nature que les hommes n'existent pas. Donc là, souvent, c'est pas très
bon. Pas bon.
On n'est pas bien du tout. Il plonge dans sa tête, peaufine ses techniques respiratoires, apprend à se libérer de ses pensées. Il va sortir de là et continue en tout cas à essayer de battre des records. Il a 56 ans quand il dépasse cette fois les 105 mètres.
C'est dingue, hein, 56 ans, 105 mètres, tu vois, c'est-à-dire que le mec ne s'est jamais arrêté. Quoi.
Ouais. On rappelle qu'en 75, il y a eu la mort de son ami. En 83, au moment où il y a la mort de sa maman. Ouais. C'est pas la folie, je pense, pour lui, malgré les records.
En tout cas, il atteint 105 mètres donc en 83, record que Mallorca ne battra plus jamais.
Et non,
en 88, il fera 101 mètres à Syracuse à 57 ans.
Et c'est là où, par exemple, je pense qu'on se dit qu'il n'est pas dans que la dépression, on pourrait se dire, tiens, un sportif de haut niveau qui commence à perdre. Bon, on le voit chez les footballeurs qui prennent énormément de kilos et tout, ça peut être lié. Là, je me dis que sa dépression, elle n'est pas forcément liée aux pertes de performance, puisqu'il ne perd pas en performance, mais que c'est vraiment tout le côté philosophique qui est autour, etc. C'est en ça que je me disais tout à l'heure.
C'est pas
le sport pour lui.
Enfin, mais... Ouais, après c'est peut-être le sport. Enfin, tu vois, il y a plein de sports qui changent aussi les gens. Peut-être que les apnéistes, à force d'être tout seuls dans le fond, ils deviennent aussi un petit peu barjots. Tu vois, les joueurs d'échecs, ils deviennent barjots aussi parce qu'ils calculent tout le temps. Bon, c'est pas vraiment un sport.
D'accord que le sport le transforme aussi mentalement. Ouais. En revanche, c'est vrai que tu bats rarement des records quand tu es dans une dépression, que tu sors d'une dépression.
Oui.
Tu vois, ce sport est un peu à part.
Alors en tout cas, on a beaucoup donc parlé d'apnée en profondeur, mais peut-être qu'on peut dire qu'il existe une multitude d'autres disciplines en apnée, mais vraiment, il y en a vraiment énormément, en fait. Est-ce que vous pouvez me dire les principales ? Il y a trois grandes catégories, en fait.
Trois familles, ouais.
Trois familles. Olivier.
Eh bien, l'apnée statique, alors ça, c'est l'apnée de base, hein, c'est-à-dire que tu...
C'est seul de la baignoire, hein, ici, ni plus ni moins.
C'est-à-dire que tu as de l'eau, tu as une tête, tu mets la tête dans l'eau, voilà. Et tu attends.
Mais c'est vrai que ça demande des moyens assez mesurés.
Oui, t'as pas forcément... C'est vraiment parce que j'ai écouté un podcast, je sais pas quoi, on lui demandait le matériel à un type. Bon, là, comme il n'y a pas besoin vraiment, c'est vraiment la tête, je crois qu'il n'y a pas besoin de matériel.
Il faut de l'eau quand même. Hein.
On le dit quand même, le record homme est détenu par un Français, Stéphane Misf. Sud et 11 minutes 35 quand même.
Hein. Oh, non mais ça c'est... Non, mais ça, c'est...
Et ça date de 2009, c'est très vieux, je trouve ça intéressant.
Ah tu dirais... Ouais. Oui,
bah, ça veut dire quand même depuis j'essaie de compter là 12 ans personne n'a fait mieux. Voilà.
Non mais 11 minutes 30. Après faut voir hein, les gars qui font du statique, ils sont, enfin c'est pas très joli à voir.
J'ai été étonné que sur une telle discipline, surtout l'apnée statique, il y ait une aussi grande différence entre le record de l'homme et le record
c'est
de la
vrai.
Femme.
Je comprends pas forcément
pourquoi.
Mais à chaque fois il y a beaucoup, je trouve, en plongée entre les records hommes et femmes, je sais pas pourquoi.
Et alors il y a une deuxième catégorie, Thomas, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'apnée dynamique en piscine. Donc on peut le faire avec ou sans palme, avec une monopalmes, des bipalmes, enfin toutes sortes de palmes, je ne sais pas si vous
en connaissez. Des palmes de main, des palmes de nez.
Donc bah, c'est de l'apnée, il faut se déplacer à l'horizontale, puisque à la verticale, sinon on va dans les abysses et puis là, ça ne marche plus. Donc c'est pareil, ça ne se fait pas en grande profondeur, c'est à faible profondeur, et il faut aller le plus loin possible. Donc il faut bien gérer ses efforts, parce que si on bourrine dès le départ, je pense qu'on est essoufflé, que ça marche moins bien. Et il faut, voilà, je pense, être en harmonie avec l'eau, il faut gérer la vitesse, le temps du mouvement, il faut être juste et économe.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Il y en a où tu peux reprendre ton souffle et tu dois faire, je sais pas, 300 mètres.
C'est de la triche, enfin, non,
t'en as certains où t'as le droit de gérer, des temps de respiration.
C'est les règles.
Bon, il y en a plein, mais c'est vrai que ça, c'est très, très sportif, hein, finalement, quoi.
Ouais, bah, moi, avec les palmes, en reprenant mon souffle, je te fais 25 km, hein, pas de problème.
Et pour le coup.
Peut-être que c'est ta discipline, alors faut y aller.
Écoute,
Thomas, faut tout plaquer. Allez, faut tout plaquer.
On te rappelle que ton record avec le monsieur très, très commode ou pas commode, c'est 4 mètres, hein. Il y a un peu de boulot
dans le bain.
Non, mais pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est que donc Guillaume Néry, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui fait de l'apnée en profondeur, qui est la dernière catégorie par exemple, il dit qu'il est hyper impressionné par les mecs qui font de l'apnée dynamique. C'est pas du tout la même discipline.
Mais il dit qu'il est nul d'ailleurs, lui.
Ouais, exactement.
Je pense qu'il est nul.
Non, il fait que 8 minutes en statique. Ouais. C'est vrai qu'il est vraiment nul.
Et donc enfin, la dernière chose, c'est l'apnée en profondeur, où le but est d'aller le plus profond possible le long d'un câble vertical qui sert de guide. Et là, il y a des petites sous-disciplines. Thibaut, tu veux nous en dire quelques-unes?
Ouais, il y a l'immersion libre, où là, on atteint la profondeur la plus importante à la force de ses bras seul.
Ouais,
et ensuite, il y en a avec des poids, à poids constant, à poids variable. À poids constant, ça veut dire simplement qu'on remonte et qu'on descend avec le même lest, avec ou sans palme, mais à la force des bras, ouais, et des jambes.
Ouais, ouais, tu n'utilises pas le câble.
Ouais. Ouais.
Et à poids variable, l'apnéiste descend avec un lest et l'abandonne ensuite quand il doit remonter. Et il cède de ce qu'on a expliqué tout à l'heure et qu'on a entendu dans le reportage, la gueuse. Mmh. C'est l'appareil lesté qui peut se déplacer le long du câble. Mmh. Et on remonte ensuite avec les palmants.
Et le dernier?
L'apnée no limite. On plonge avec une gueuse et on remonte en s'aidant d'un parachute. Le parachute, c'est un ballon d'air qui est fixé à la gueuse et qui est gonflé par le plongeur.
Ouais, mmh. Et pareil, là, je trouvais ça hyper intéressant. Guillaume Néry, dans son interview, il explique qu'au départ, quand il plonge en profondeur, donc lui, il fait à poids constant, il plonge avec des palmes tout le temps et il trouve qu'il n'est pas très bien, il s'essouffle, etc. Et un jour, il plonge, je crois, avec donc une monopalme, je crois, ouais, que c'est ça. Et il dit d'un coup, je me sens beaucoup mieux, je vais plus douce, je me contrôle mieux. Et comme une révélation, donc tout ça joue vraiment quand même sur l'effort.
Le matériel est très, très important.
Comme un dauphin. Mais c'est vrai que l'apnée en profondeur, c'était le truc vraiment noble de la plongée. En fait, c'était justement toutes les stars, Pellizzari et tout, on parlait d'eux. Des mecs qui font de l'apnée en longueur. Moi, je les connais pas. Et comme je te disais, l'apnée no limite, ça se fait beaucoup moins. Ce qu'on voyait dans le Grand Bleu, ça se fait beaucoup moins. Maintenant, la discipline la plus noble, c'est le point constant.
C'est celle de Guillaume.
C'est plus celle-là, voilà. Et puis, parce que la no limite était trop dangereuse et il y a eu trop de morts. Et au bout d'un moment, on arrête.
Et c'est marrant aussi parce qu'il y a d'autres disciplines non homologuées. Par exemple, le plus de temps sous la glace, où tu vas la plus grande distance sous la glace, j'aimerais pas du tout faire ça. Ça, je trouve ça traumatisant.
Ça, c'est pas très drôle.
Donc voilà, donc revenons à Jacques Mayol. En 83, il va faire une rencontre importante avec qui?
Avec Luc Besson. Je sais pas si c'est vraiment important de rencontrer Luc Besson.
C'est ce que j'allais dire.
Ça va jouer quand même sur la suite.
Oui, alors il le rencontre, Besson.
À Marseille.
Qui à Marseille, en fait, il le rencontre pendant l'enterrement de sa mère. Ouais, enfin, pas ça. Pendant, le Besson est parié. Hey, attendez,
il est opportuniste, lui. Hein. Attention.
J'ai que 10 minutes.
Et il lui raconte l'idée que son envie à Besson de faire un film, parce qu'il est visiblement passionné par la vie de Mayol, un film qui s'appellera Le Grand Bleu, et avec le personnage de Jacques Mayol qui sera interprété par Jean-Marie Barr.
Ouais, et d'ailleurs, qui, on l'a dit tout à l'heure, est quelqu'un dans le film, justement, de pas du tout séduction, média, etc. Plutôt quelqu'un de très un peu introverti, fait presque, enfin, dans le film, et puis surtout un personnage assez toxique avec sa conjointe.
Ultra toxique.
Ouais, enfin, dans le film, il a qu'une fille, enfin, il a une relation qu'avec une seule fille. Dans la vraie, ouais, vie, je pense qu'il est nu beaucoup plus,
oui,
et qu'il était,
oui,
plus dommageable.
Mais il ne l'a pas très bien traité quand même, je tiens à le dire. Et il y a donc Jean-Marc Barr qui joue Jacques Mayol et Jean Reno qui joue Mallorca, qui ne s'appelle pas Mallorca dans le film. Le film sort en 88, c'est un énorme succès avec 9 millions de spectateurs en France, mais c'est pas une très bonne expérience ni pour Mayol ni pour Enzo Mallorca.
Bah non, les deux sont un peu énervés, on peut, oui, le dire. Mayol, il n'apparaît pas au générique, donc évidemment, il n'est pas content. Pas content du tout. Il veut réviser le contrat, il est très fâché avec Luc Besson.
Il va sur le tournage pourtant.
Exactement, il est fâché, mais alors visiblement, ce que disait Jean-Marc Barr, c'est que, ouais, il était là, bah, il faisait la teuf, il avait à chaque fois une nouvelle femme différente dans les bras, il était là pour faire la teuf, et il ne m'a pas vraiment aidé pour mon personnage. Quoi.
Donc les deux se renvoient un petit peu la balle finalement, mais lui se sent dépossédé. De son histoire.
Exactement.
Le film est censé.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Jean-Marc Barr, lui, il dit quand même qu'il comprend pourquoi ça a pu l'énerver, etc. Parce que c'est vrai que, en tout cas, quand tu vois les documentaires sur Jacques Mayol et que tu vois son personnage dans le film, c'est deux hommes très différents. Et par exemple, il y a une anecdote, c'est quand même dur. À la mort de Jacques Mayol, il y a un journal qui va illustrer sa mort avec une photo de Jean-Marc Barr. Ouais, et Jean-Marc Barr, il dit il y a des gens qui m'appellent pour vérifier que c'est bien Jacques Mayol qui est mort et pas moi, en fait. Voilà.
Après, à côté de ça, je pense que sans le film, Le Grand Bleu, déjà on parlera pas de Jacques Mayol ce soir, et que bon, ça l'a aussi fait perdurer dans le temps. Hein,
et ça a fait connaître l'apnée aussi.
Connaître l'apnée.
Et je pense que pour Mallorca.
Le cinquième élément, arrêtez, c'est génial.
J'adore le cinquième élément. Et pour Mallorca, Thomas, je crois que c'est encore pire globalement.
Alors lui, il est encore plus fâché. Ben, c'est normal, il est italien contrarié, on l'avait dit dès le départ. Il est assez énervé en général.
C'est facho.
J'ai beaucoup de sympathie pour les Italiens, surtout depuis 2006.
Ah, c'est pas moi qui ai dit facho, c'est ton copain. De droite. Parce que
Mallorca, non, mais attends, petite parenthèse, après je te redonne la parole, Thomas, mais Mallorca, c'est un vrai facho. Ouais. Il, à la fin de sa vie, il va rejoindre les mouvements fascistes.
Anti-dauphin, je crois, non ? Il est
anti-dauphin. C'est pas fasciste. C'est pas un sympathique personnage, mais il a quand même le droit d'être fâché. Puisque lui aussi, son personnage est vraiment. Très caricatural.
Il a l'air fort en justice, Mallorca, quand même, parce qu'il peut bloquer la sortie d'un film pendant quasiment 15 piges en Italie.
C'est incroyable.
Et il va sortir en Italie au bout d'un certain nombre d'années, donc effectivement 14 ans, dans une version abrégée où on coupe les scènes où Enzo se fait payer pour sauver un homme, où il y a une représentation un peu dégradante de sa mère, on le caricature en mangeur de pâtes. Et puis surtout, il n'était pas du tout au courant. Même Jacques Mayol, qui était censé quand même être un peu son ami, ne l'a pas mis au courant. Donc globalement, il va dire quand même que en 2014 à l'équipe, ce film est indécent, il me fait passer pour ce que je ne suis pas, un voleur, un vénal, un rustre. On me fait apparaître la bouche pleine de confiture devant un ecclésiastique. Oh. On attifle ma mère de vieilles fringues et de moustaches. Oh. Elle passe son temps à me bourrer de spaghettis à la vongolée.
Je vois pas où est le mal là, mais bon.
Sur la dernière phrase.
Non, mais après, c'est vrai que pour le coup, Jacques Mayol dans le film s'appelle Jacques Mayol, lui il s'appelle Enzo Molinari. Ouais. Donc en fait.
Bah oui, il a refusé que son nom soit mis.
Ah, mais je pense qu'il l'avait. Ah bon.
Non, c'est lui qui va refuser.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais.
Ah ouais, ouais.
Parce que l'ordre peut être important, hein, tu vois.
Je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Okay. Enfin bon, en tout cas, suite à ça, Mayol disparaît peu à peu des radars quand même.
Oui, il fait un accouchement, on le voit parce qu'il y a un truc qui est vachement médiatisé. C'est un accouchement qui se passe dans l'eau à 2 mètres de profondeur au Cap d'Agde. Alors, l'histoire.
J'ai vu aussi, hein. C'est vraiment graphique, entre guillemets.
Mais l'histoire a vraiment. Surtout tout, que c'est un enfant mi-homme, mi-dauphin. Ouais, bon. Mais voilà.
Greg, il a tout vu, c'est notre pire tchernia.
Non, mais j'ai vu parce que je voulais savoir ce qu'il faisait après, en fait, parce qu'on dit qu'il est en dépression et tout, il va sur l'île d'Elbe, c'est
oui,
là qu'il
c'est
habite.
Ça.
Et parce qu'il va finir par se suicider, le pauvre. Mais il fait quand même des trucs. Et moi, j'ai vu des conférences où il est encore bon communicant, il est content de parler, il parle justement de cet accouchement. Il fait aussi d'autres défis où il va nager en profondeur avec des dauphins. Il a pas tout lâché, il est quand même très proche de la mer encore, donc ça m'a rassuré. Je me suis dit bon, il était pas complètement perdu.
Non, il va même suivre un jeune champion de l'époque qui s'appelle Umberto Pellizzari, qui va tout défoncer, 131 mètres quand même en 2001. Il va l'aider, il va s'entraîner, mais effectivement il est quand même seul, déprimé. À un moment, il revoit ses enfants sur l'île d'Elbe, et il dit à sa fille que je sais pas si c'est très sympathique, qu'il aurait bien aimé fonder une nouvelle famille, qu'il regrette de ne pas l'avoir fait.
Ouais, c'est peut-être pas ce que t'as envie d'entendre quand tu vois.
C'est un peu dur.
Ouais, c'était peut-être le prix à payer pour avoir cette villa et de claquer des 100 mètres en profondeur. Bah voilà, bah t'as pas de famille quoi, mon gars. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? C'est comme ça.
Il me fait vraiment penser à Luke Skywalker à la fin de sa carrière pour le coup. C'est le même. Voilà, il fait la même chose.
C'est
il
un
part
footballeur,
tout seul.
Non. Je sais pas, je connais pas le sport, c'est pour ça.
Non, mais
un bon.
En tout cas, il va se suicider en 2001 à 74 ans. Et je vous propose d'écouter quelques témoignages de ses amis qui sont dans le documentaire donc d'Arte, l'homme dauphin, qui a été réalisé par Lefteris Charitos, que je trouve assez émouvant.
Jacques Mayol a décidé de rejoindre le Grand Bleu définitivement. Le célèbre plongeur s'est suicidé en Italie, chez lui, sur l'île d'Elbe, à l'âge de 74 ans. Sa vie et ses records en apnée avaient inspiré le célèbre film de Luc Besson.
La logica per cui una persona...
Lorsqu'une personne décide de se suicider, c'est parce qu'elle considère qu'elle n'a plus rien à donner. Il n'était plus le numéro un. Il n'a pas laissé d'explication. Il n'a rien écrit. Il a salué. Je m'en vais dans un autre monde. C'était son salut. Peut-être un monde meilleur auquel il croyait.
On parlait souvent de notre conception de la vie et de la mort. Au Japon, se donner la mort n'est pas un déshonneur. La mort de Jacques avait quelque chose de l'esprit des samouraïs. J'en suis convaincu. Un jour, il m'a dit que lorsque les vieux dauphins sentent leur dernière heure arriver, ils quittent le groupe et s'isolent pour mourir. Je crois que c'est ce qu'il a fait.
En italien, en japonais, en anglais, ces souvenirs de Jacques Mayol, je trouve, sont à son image, celui d'un aventurier sans attache, sinon une attache à l'océan. Et il va également laisser un gros héritage. Hein. Pellizzari résumera en disant qu'il laissera le plaisir de plonger, dont dérive tout le reste, l'élégance, la symbiose avec la mer, la conscience d'être sous l'eau, d'être un homme, mais sans ressentir le besoin de respirer. Peut-être qu'on peut dire un mot sur les records actuels qui sont absolument démentiels.
Déjà, je vais reprendre ma respiration parce que depuis le début de l'émission, j'étais en apnée.
Bravo, Thibault, c'était très impressionnant.
Voilà un nouveau record, du coup.
Non, ouais, on est sur des records vraiment exponentiels. L'apnée en poids variable, on atteint 150 mètres. L'apnée nos limites, on a franchi les 200 mètres, 214 mètres exactement. On est même descendu à plus de 250 mètres, mais un record qui a été non homologué parce qu'il y a eu un accident de décompression. Ouais. Et maintenant, on a des nouvelles techniques pour descendre, puisqu'on descend donc toujours à la verticale, mais la tête en haut.
Ouais, c'est marrant, maintenant c'est presque comme un petit ascenseur.
Et du coup, on revient pas sur la phase émouvante qu'on vient d'entendre, parce que moi j'étais prêt à tout lâcher là.
Ah bah si, vas-y.
Alors, préparer pardon. Les mouchoirs et ça va être un peu long, j'en ai pour 2h10 aussi, entracte prévu.
Tu parles de la mort du dauphin ?
Tout à fait. Bah, déjà, on n'a pas de nouvelles de clown, vraiment.
Ah oui, ça,
on ne sait pas quand clown disparaît.
Ah oui.
Non, mais surtout,
inquiet, hein.
Non, vraiment, inquiétude pour clown. Mais au-delà de ça, dans ce que, cette histoire assez terrible sur la fin, puisque c'est un suicide. Surtout quand on revoit la vie de Mayol, parce que j'ai aussi regardé le documentaire Arte, qui est vraiment très bien. Et à la fin, il y a un côté très très émouvant, pas que pour le suicide, parce que je considère qu'il est arrivé sur la fin à ce qu'il voulait, c'est-à-dire être, enfin, ne pas être humain, tout simplement, être vraiment un animal marin. Et c'est quand même un monsieur avec qui je partage pas beaucoup de valeurs, parce que quand je vois la manière dont il traite sa famille, c'est pas très très loin de ça. Enfin, dans la vie de familiale que j'ai envie de mener, c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire. Mais
en même temps, tu vas à 4 mètres sous l'eau, mais
c'est pas... voilà. Sur ça, on est quand même assez différent. Il y a une différence de profondeur.
296 mètres.
Je trouve qu'on moi, je me suis lié quand on dit que bon, l'héritage de Mayol, évidemment, en plongée, je suis naze. Mais ça m'a vraiment marqué son histoire. Il y a des histoires qui me marquent plus que d'autres. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que, bah, a priori, ce mec-là, c'est mon pire ennemi, parce que quand je vois tout ce qu'il fait de sa vie, c'est des choses que j'aime pas. Mais cette persévérance à aller toujours plus loin et puis aller au bout de ses idées. Voilà, c'est Notre-Dame-des-Landes à l'extrême, mais avec l'eau. Quoi. Vraiment. Voilà, c'est
sans politique. Bon, c'est presque pareil.
Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi, moi, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça va être vraiment aussi un militant qui va alerter sur, la pollution aussi dans les océans, etc. Et il va beaucoup laisser cet héritage. Et en fait, quand tu écoutes beaucoup d'apnéistes aujourd'hui, ils sont tous très sensibles parce qu'il y a un côté vraiment symbiose, protection de l'océan. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le reportage, c'est qu'à un moment, un de ses amis qui est japonais dit que vers la fin de sa vie, il le sollicitait beaucoup en lui disant « Viens, on fait une sortie ensemble, on va faire des choses ensemble. » Et lui, il disait « J'avais une famille, un métier, j'avais pas le temps. » Et donc, on sent quand même que même s'il était un peu détaché des hommes, il était à la recherche de quelque chose et qu'il avait perdu beaucoup d'attaches.
Ouais, mais c'est vrai que... Au-delà de tout ça, l'héritage qu'il a laissé, Mayol, c'est que tous les apnéistes ont un peu la même approche que Jacques Mayol aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un apnéiste qui ne fait pas du yoga. Là, toutes les jeunes générations, ils sont forcément... ils sont tous dans l'héritage de Mayol. Donc, ils sont tous un petit peu... Bon, au niveau de la vie de famille, ce n'est pas forcément le cas. Mais ils ont tous cette vision philosophique. Et je trouve qu'il y a souvent un côté intello chez les apnéistes qui sont toujours en train de dire... de faire de la philosophie parce qu'ils sont tout le temps en train de jouer avec, avec la mort. Et cette décision... Et donc tous les mecs sont assez philosophes. D'ailleurs, Jacques Mayol a écrit un bouquin, Homo Delphinus, où il dit qu'il faut qu'on se rapproche des dauphins, comme on l'a dit. Il y a beaucoup d'apnéistes qui écrivent des bouquins et pas beaucoup de footballeurs. Posez-vous les bonnes questions.
Non, mais Clown a écrit son autobiographie.
C'est
aussi.
Vrai aussi.
Et la biographie de Steve Savigan en plein cœur est pas mal.
Et Materazzi a écrit aussi.
Je pense qu'ils nagent quelque part au paradis avec Clown, tous les deux.
Ah oui, bien sûr.
C'est beau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va passer à l'anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Et cette semaine, on retrouve Chloé en duplex pour cet anti-doping. Chloé, on t'écoute.
Coucou Sarah, coucou Thibaut. Hello Olivier, coucou
salut,
Thomas, coucou
Chloé.
Younes.
Salut, salut Chloé.
Younes, là, Younes. Ah
bah, Younes, par là, tu m'entends?
Younes.
Et Greg, bah, ça oui, fait plaisir de te voir là.
Moi
ça va, ça se passe à Paris?
Super,
super.
Ouais.
Tout va bien.
Ouais. Je fais vite parce qu'avec la 5G dans le vaccin, je suis pas sûre que mon téléphone tienne le coup.
Et en tout cas, y a une
du coup, je me suis rendue à Rimini pour rencontrer notre invitée du mois, qui a tenu à s'adresser à nous masqués pour respecter les contraintes sanitaires. Elle n'est nulle autre que la disciple de ce bon vieux Jacques. J'ai nommé Angela Bandini. Bonjour Angela, merci de me recevoir. Il se dégage de vous une vraie sérénité, un calme intérieur je dirais. Est-ce le calme des profondeurs qui vous appelle? C'est vrai que l'eau a toujours fait partie de votre vie, même si vous vous destinez à un autre sport à l'origine, la gymnastique je crois. Pas trop dur de rebondir? Oui, l'apnée comme une vraie recherche spirituelle. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez appris tout au long de vos voyages, aux côtés de Jacques Mayol déjà, et puis de Léo Amici. Je rappelle à nos auditeurs, Léo Amici, poète et philosophe italien, un homme de foi, votre amici et compagnon de plongée pendant des années. Ce n'était pas dans une recherche de la performance alors. Ah, au niveau des capacités pulmonaires, vous... D'accord, d'où la volonté de travailler son mental. Et sans oublier la fameuse technique de descente à grande vitesse tête en bas que vous avez travaillée avec Amici. C'est notamment grâce à ça que vous avez battu des records incroyables. Déjà le record de Mayol en No Limit, vous êtes descendu à moins 107 mètres en 2 minutes 46, c'était en 1989. Ah, pas si difficile. Ah, je vous crois. Et tout ça alors que la veille, vous aviez déjà battu le record de Rosana Mallorca, la fille d'Enzo, la détentrice du record féminin de descente en poids variable, qui était de 80 mètres et que vous avez repoussé à 95 mètres. Quand on commence en nageant avec des dauphins et qu'on finit propulsé championne dans cette discipline, comment on fait pour supporter autant de pression? J'entends bien. Pour finir, nous avons consacré cet épisode à Jacques Mayol, votre mentor et ami. Voudriez-vous conclure par quelques mots? C'est très beau. Merci beaucoup, Angela. Et vous, vos prochaines aventures? Angela, si vous pouviez articuler un peu. Angela? Angela? Angela, attendez, attendez, votre pince FR3, Angela! Angela, votre pince FR3, vous avez oublié votre pince! Attendez!
Merci beaucoup, Chloé. C'était
jolie
magnifique.
Exclu, hein.
C'est beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup,
ouais. C'est super.
Hein. Ah ouais, c'est merveilleux. J'espère qu'elle a réussi à lui donner le pince FR3. C'est, oui. C'est tout, tout ce que je souhaite.
Je comprends pas plus de choses quand Younes parle en mangeant sa compote.
En attendant, les amis, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir.
Eh oui.
De partir en vacances.
Eh oui, on va peut-être faire de la plongée. Peut-être Thomas, tu vas faire de la plongée pendant les vacances.
Recommande.
Oui, c'est prévu.
Je vous recommande d'aller faire de la plongée. Et
enfin,
de...
À Vierzon, c'est difficile, Olivier, quand même.
Dans la piscine municipale de Vierzon.
Et à Vierzon plage.
Et surtout, si vous vous ennuyez et si on vous manque pendant les vacances, bah, vous pouvez réécouter nos autres épisodes ou écouter d'autres podcasts de Fréquence Moderne. Thibaut, ton
relire
préféré.
Tintin.
Oui, c'est son préféré. Greg, peut-être un conseil?
2 heures de perdu, Culture 2000, oui. 20 minutes avant la fin du monde. Il y a des choix. Hein.
Et Culture 2000, tu connais bien?
Ouais, je connais, ouais.
Ouais, je connais. On rappelle hein, que Greg anime, bien sûr, Culture 2000. Merci beaucoup. D'avoir été avec
c'était
nous.
C'était un plaisir de parler de Jacques.
Merci, merci. Oui.
Jaco.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Oui, Instagram, Facebook et comment ça s'appelle le truc avec l'oiseau bleu, Twitter. On essaye de mettre des trucs de temps en temps.
TikTok,
voilà, on est gentil.
Dailymotion.
Exactement.
Dailymotion, le truc de vieux.
Caramel.
Et en attendant, eh ben, on vous souhaite d'excellentes vacances, un bel été et
oui,
on se dit à
été.
La rentrée.
Oui,
bonnes
à
vacances.
Rentrée,
bonnes
vacances. Bisous.
À
bonnes
bientôt.
Vacances à tout le monde.
Au revoir.
Merci. The Peace. We'll be right back.
wasted.